Je me présente, Marie-Pierre Domingeon. Je suis avocate depuis plus d'une vingtaine d'années. Je suis la présidente de la commission des mineurs de l'Ordre des avocats. Historiquement, en fait, je chapeaute sous l'autorité du bâtonnier un groupe d'avocats qui sont 150 quand même sur Lyon. Donc c'est un groupe qui se forme, qui essaye régulièrement d'exercer une mission un peu particulière, qui sont des avocats bien sûr, mais qui exercent avant tout aux côtés d'enfants, enfin, qu'ont pour clients des enfants, et qui s'oblige à se former, et en droit, également dans d'autres sciences, d'où l'intérêt effectivement de diversifier les connaissances. Et alors 150 avocats, c'est à la fois beaucoup et peu, puisqu'on est 2500 avocats à Lyon, donc c'est dire que c'est quand même un peu résiduel. Mais ces 150 avocats s'engagent effectivement à se former pour défendre de manière efficace leurs clients. La particularité, c'est intéressant quand même, c'est de dire que ce groupe d'avocats est né en 1990, donc juste après la Convention internationale des droits de l'enfant, parce que c'était aussi l'idée que si on donnait des droits aux enfants, si on affirmait qu'il y ait des droits, ben, il y avait aussi un professionnel au milieu qui pouvait avoir sa place, sans parler d'un marché de droits potentiels, mais qui avait sans doute un besoin de droits, et que l'avocat était bien placé pour, justement, en tant que professionnel, ben, conseiller et défendre ceux à qui on reconnaissait des droits. Donc c'est effectivement comme ça que cette commission des mineurs est née, alors à Lyon, dans d'autres barreaux, à Bordeaux. Et c'est vrai que ce qui aurait pu être une mode n'est pas du tout une mode, puisque 20 ans après, on continue à exercer dans le même champ. Avec, c'est vrai, un rappel, je crois que je parle de la place d'un avocat. Donc je vais essayer aussi de rester sur une vision assez pratique de ce qu'est l'exercice des droits. Mais avec un petit rappel historique quand même, c'est vrai que quand on parle des droits de l'enfant, alors vous avez rappelé tout à l'heure l'enfant, ça vient effectivement l'enfant, celui qui ne parle pas. Pour nous, juristes, on va essentiellement dire qu'un enfant, c'est un mineur. Cette terminologie, alors mineur ou enfant, c'est un peu le mot interdit maintenant. Hein, c'est qu'on a l'impression, quand on parle des enfants, bah c'est les enfants qu'il faut protéger. Et puis quand on va parler des mineurs, ça va être plutôt bah, le mineur délinquant. C'est-à-dire qu'il y a maintenant un peu cette connotation de dire que... alors, nous, c'est la commission des mineurs, parce que au moment de l'entrée en vigueur de la Convention, c'était l'idée de rappeler qu'on était des juristes. Justement, on n'allait pas venir sur le champ du travail social, on n'était pas des éducateurs, on n'était pas là pour protéger au sens du travail qui pouvait être fait au quotidien par d'autres professionnels. Donc c'est pour ça qu'on s'était mis sur le champ du mineur. Actuellement, 20 ans après, vu les glissements un petit peu, on a l'impression qu'on a des droits qui se restreignent. Peut-être que maintenant, on parlerait de la Commission des droits de l'enfant. Peut-être que par contre-pied, on se positionnerait comme ça. N'empêche que pour nous, juriste, ben l'enfant, c'est celui qui a moins de 18 ans. Et c'est celui qui est frappé d'une incapacité juridique. C'est pour ça qu'effectivement, on fait une différence, c'est qu'il y a l'adulte, il y a l'enfant, et puis il y a le majeur protégé aussi. On va avoir ces trois catégories-là. Donc on va avoir deux catégories particulières qui sont effectivement des gens qui ne peuvent pas exercer leurs droits, dont le mineur. Donc c'est vrai que pour nous, quand on va parler d'enfant, c'est pas celui qui s'inscrit dans la famille, parce qu'on est toujours l'enfant de quelqu'un, ou on peut rester l'enfant de quelqu'un. Là, c'est dans l'idée, effectivement, c'est de 0 à 18 ans. Après, qu'est-ce qu'un enfant? Alors, là aussi, c'est quelque chose qu'on redit chaque fois, c'est un adulte en devenir, donc il a besoin de quoi? Il a besoin d'être éduqué et protégé. Donc sur cette idée de droit de l'enfant, c'est plutôt le droit qu'a l'enfant de grandir, puisqu'il a vocation à grandir, pas à rester enfant toute sa vie. Et c'est dans ce cadre-là qu'on avait plutôt l'habitude d'avoir des droits de la société pour les enfants. Donc lui permettre de grandir, lui permettre d'avoir une éducation, et effectivement le droit de devenir un adulte. Donc l'occupation essentielle de l'enfant, c'est grandir. L'occupation de la société, c'est de lui permettre de grandir dans les meilleures conditions possibles, avec bien évidemment un contexte dans lequel l'enfant grandit, parce qu'il ne peut pas grandir tout seul. Soit on a un cadre naturel, traditionnel, on va dire, c'est la famille. Il grandit dans la famille. Et lorsque la famille est défaillante ou inexistante, c'est l'État qui va avoir cette mission de faire grandir les enfants. Donc c'est toujours cette idée que derrière l'enfant, il y a une nécessité de protection. Au fur et à mesure, cette notion de droit de l'enfant, ça va être essentiellement, alors quand on va le regarder dans les textes, c'est le droit... des adultes sur les enfants. C'est-à-dire qu'on va mettre à la charge des adultes un certain nombre d'obligations. Vous devez l'aider à grandir, et au sein de la famille, vous avez des droits sur l'enfant, mais qui sont surtout des obligations, une obligation financière, une obligation de l'aider à grandir, avec également, en parallèle, ce qui va être un droit plus personnel aux mineurs, ça va être effectivement le droit pénal des mineurs. Là, c'est un droit qui est propre aux mineurs. On va commencer effectivement à parler d'un droit non plus de l'enfant qu'on doit protéger, ou on ne parlera plus de l'intérêt de l'enfant, enfin l'intérêt qu'ont les adultes à protéger un enfant, mais on va commencer à parler de droit de l'enfant finalement à travers le champ répressif. C'est effectivement le droit pénal des mineurs qui est le droit spécialisé, qui permet de répondre éventuellement effectivement à l'idée que là c'est pas l'enfant qu'on protège, mais c'est la société qu'on protégerait contre des enfants dangereux, avec quand même l'idée, c'est la grande philosophie de l'ordonnance de 1945, que c'est des enfants qui vont grandir, donc qui vont devenir les citoyens de demain. Donc à la fois, il faut peut-être corriger leur dysfonctionnement, ou en tout cas leur apprendre à comprendre la règle. Donc, mais c'est quand même les premiers droits qu'on commence à voir, effectivement, qui sont des droits personnels et propres à l'enfant, bah, c'est à travers déjà ce droit pénal des mineurs. Et puis, on va avoir également, alors là c'est plus intéressant, c'est effectivement des droits qu'on donne à l'enfant directement. Alors ça, ce sont les textes internationaux qui vont poser ça comme grand principe. Donc, premier texte international, c'est la Déclaration des droits de l'enfant de 1959. Et puis là où les choses vont véritablement être dans une vraie dynamique d'accès aux droits de l'enfant, où on va effectivement voir des droits qui sont propres à l'enfant, par exemple, c'est le droit à la liberté religieuse, on va le voir dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Cette convention qui est donc signée à New York en 1989 et qui va être ratifiée par la France en 1990, texte qui actuellement est ratifié par un certain nombre de pays, et on a pour habitude de rappeler que les deux pays qui ne sont pas signataires, ce sont les États-Unis et la Somalie, même si la Somalie, je pense qu'avec le changement effectivement de régime politique, je crois qu'une partie maintenant, que le nouvel État effectivement aurait signé la convention, mais ça c'est effectivement à vérifier. C'est intéressant de savoir que les États-Unis n'ont pas signé cette convention, c'est souvent quelque chose qu'on oublie. Alors on le sait essentiellement puisque c'est cette histoire de la peine de mort qui est applicable aux mineurs qui fait qu'effectivement ce texte n'est pas ratifié par les États-Unis. Et puis un autre texte également, c'est la Convention européenne sur l'exercice des droits par les enfants. Alors là, c'est carrément même réaffirmé dans le texte. On parle véritablement des droits, l'exercice des droits par les enfants, qui est donc une convention qui est ratifiée, qui est signée en 1996 et qui est ratifiée en fait par la France en 2009 seulement. C'est vrai que c'est un texte qu'on applique effectivement maintenant. Et qu'on va, nous, professionnels, maintenant viser dans nos actes. Effectivement, quand on va revendiquer des droits au nom des mineurs, on va effectivement souvent viser ces textes-là, ce qu'on ne faisait pas auparavant, puisqu'on avait des textes nationaux qu'on essayait d'appliquer. On a eu tout un débat juridique, mais je vous épargnerai, sur, au départ, on ne voulait pas dire que la Convention internationale des droits de l'enfant était applicable en droit français, et puis la Cour de cassation est venue dire, dans les années 2000, qu'effectivement, il y avait ce texte-là pouvait s'appliquer immédiatement, donc que les enfants pouvaient revendiquer des droits. Alors c'est là où, voilà, on a des beaux textes qui prévoient des droits. Alors on a un inventaire de droits. Alors on sait bien aussi que ces conventions internationales, elles sont faites avant tout pour... c'est des guides de conduite. Alors en fonction des pays, c'est des textes internationaux. Il y a des pays qui vont les piocher pour monter en puissance, pour essayer de revendiquer des droits. C'est vrai que nous, par exemple en France, la notion de droit du travail pour les enfants, on n'est pas du tout au même niveau que d'autres pays. C'est vrai que nous, on a déjà... une obligation scolaire, il y a une interdiction de travailler avant tel âge, enfin, on a vraiment déjà des textes nationaux qui bordaient déjà largement ces droits-là. En revanche, là où les choses se compliquent, à mon sens, effectivement, c'est qu'on donne des droits aux enfants, donc on leur donne la liberté d'exercer des droits. Alors est-ce que c'est une vraie liberté? Et puis après, c'est tout le danger de la liberté, hein. Dès lors que vous avez des droits, bah, qu'est-ce qui va avec les droits? Tout de suite, la responsabilité. Vous prenez le risque d'exercer vos droits. Alors sur l'exercice effectif des droits, on a des inventaires de droits, alors notamment il y a un droit classique qu'ont les enfants maintenant, alors qui est repris effectivement dans la Convention internationale, ils ont le droit de s'exprimer, et ils ont le droit de s'exprimer dans toute procédure les concernant. On a un beau texte en droit français qui rappelle l'article 388-1 du Code civil qui dit que l'enfant peut être entendu, alors l'enfant doué du discernement peut être entendu dans toute procédure le concernant. Toujours des exceptions. La première exception, c'est que le juge peut quand même, si l'intérêt de l'enfant le justifie, refuser cette audition. Donc c'est-à-dire à la fois le mineur peut dire « je revendique des droits, j'ai le discernement suffisant, c'est une procédure qui me concerne, et pourtant le juge peut dire « je ne t'entendrai pas ». Alors l'explication et la justification, c'est que le juge, effectivement, en tant qu'adulte, sait que dans l'intérêt de l'enfant, son audition peut justement l'amener à être en difficulté avec les adultes. Puisque souvent, effectivement, lorsqu'on va dire que l'enfant est entendu dans une procédure qui le concerne, ça va être avant tout une procédure qui concerne ses parents. Ce texte-là, d'ailleurs, est essentiellement utilisé dans le cadre des conflits entre les parents qui se séparent. Et c'est vrai que ces demandes d'audition d'enfants sont faites aussi dans un cadre de procès qui concerne avant tout des adultes. Alors, il faut savoir qu'effectivement, pour que l'enfant soit entendu, il peut être entendu seul ou avec un avocat ou avec d'ailleurs un autre professionnel, ce que prévoit le texte de notre code, de notre code civil. En pratique, les juges se sont dit quand même, si l'enfant doit être entendu assisté d'une personne, il faut que ce soit un avocat. Puisqu'effectivement, l'enfant, à la limite, pouvait être entendu avec un grand-parent, avec un ami, un parrain, une marraine. Là, le juge s'est dit non, on est dans un cas déjà de procès, de tension, éventuellement de partage entre plusieurs familles, enfin entre deux, enfin un père et une mère, éventuellement plusieurs familles qui prennent le parti. Donc évitons et faisons en sorte que si l'enfant est assisté d'une personne, que ce soit effectivement un avocat. Alors là aussi, pour avoir assisté régulièrement des enfants en audition d'enfants, même l'avocat devrait être obligatoire. Pourquoi ? Pourquoi obligatoire ? Parce que c'est cette idée de l'accès au droit. Le mineur à qui on dit « tu peux être entendu dès lors que tu as le discernement suffisant », d'abord on est déjà sur un concept très vaste, qu'est-ce que le discernement ? C'est vrai que les juristes, on aime bien avoir des concepts précis, mais alors là, en droit de la famille, on a deux magnifiques concepts flous, c'est le discernement et l'intérêt de l'enfant. On peut mettre ce qu'on veut dedans. Ou en tout cas, on peut essayer de mettre ce qu'on veut dedans. L'enfant doué du discernement, là aussi, on va avoir des notions différentes en droit civil et en droit pénal. Si en droit civil, on a tendance à exiger, et les juges ont du mal à entendre des enfants qu'au moins de 10-12 ans. En matière pénale, maintenant, dès 10 ans, l'enfant peut être responsable pénalement. Là aussi, on l'oublie, on dit toujours le seuil de 12 ans, mais en réalité, c'est dès 10 ans en droit français. Et on va moins hésiter. Pour les auditions d'enfants, vous avez parfois des juges qui vont dire à 12 ans, il n'a pas le discernement suffisant, ou en tout cas, ça le mettrait en difficulté. Donc on a quand même des juges qui vont, sur cette notion de discernement, être relativement flous. Concrètement, le discernement, c'est effectivement l'enfant qui est capable de s'exprimer, d'avoir une pensée qui semble être la sienne, mais on est bien d'accord que entre l'enfant de 10 ans et l'enfant de 17 ans, le discernement n'est pas le même. N'empêche que le texte est le même. Donc déjà, le juge va devoir démêler si l'enfant a un discernement suffisant. Alors c'est vrai que l'intérêt de l'enfant, pour qu'il soit véritablement entendu, c'est de savoir d'abord dans quel cadre il va être entendu. Il faut savoir que dans le cas des auditions de mineurs, on a un parent qui, en général, souhaiterait que l'enfant vienne avec lui vivre, puis un autre parent qui souhaite la même chose. En général, c'est vrai que chaque parent se dit « moi je le fais dans l'intérêt de mon enfant, je pense qu'il sera bien avec moi ». Et donc on sait bien qu'effectivement le rôle du juge, ce sera de départager cela. Donc on peut avoir un enfant qui va vouloir faire plaisir à chacun de ses parents, ou qui peut d'ailleurs penser que pour lui, il a envie de s'exprimer là-dessus. Ce que nous, professionnels, on sait, c'est que ça va être l'objet d'un justement cet accès au droit, ce droit à s'exprimer, ça va le mettre très vite en porte-à-faux avec l'un de ses parents, voire les deux, et que pour lui, il n'a pas la conscience qu'effectivement, en allant exprimer ce qui lui semble, lui, son avis, il va se mettre en porte-à-faux avec ses deux parents. D'où l'intérêt pour nous, avocats, de les recevoir auparavant, pour leur expliquer d'abord que, autant dans le cabinet de l'avocat, l'enfant bénéficie d'une totale sécurité. Pourquoi ? Parce que l'avocat est tenu au secret professionnel. Ça veut dire que tout ce qui est dit dans le cabinet de l'avocat ne sera pas répété. Et les avocats d'enfants ne reçoivent pas les parents avec les enfants dans le cabinet. C'est, je veux dire, comme tout client, on reçoit son client et personne d'autre, pour éviter justement des conflits d'intérêts et puis d'avoir une totale liberté. Et c'est vrai que lorsqu'un enfant vient vous voir en entretien et qui vous dit au départ « j'ai envie d'aller voir le juge, mes parents se séparent, moi je veux vivre avec papa ou je veux vivre avec maman », enfin avec un avis très tranché, alors on entend, on discute avec lui, et puis on va lui expliquer que là il peut parler librement et que s'il va chez le juge lui va avoir une autre obligation, c'est lui de tout écrire, puisque là il va y avoir un autre droit, c'est le droit du du respect du contradictoire qui fait qu'effectivement le juge pour décider ne peut décider que sur des éléments qui ont été valablement échangés. Donc, si l'enfant s'exprime, le juge a l'obligation de viser ce que l'enfant a dit et de le communiquer à chaque avocat des parents ou à chaque parent si les parents n'ont pas d'avocat. Et lorsque vous dites ça à un enfant, tout d'un coup, ils vont souvent dire « Ah, mais je savais pas que, je voulais le dire juste comme ça, c'était un peu un secret. » Et puis, j'avais pas envie que mes parents le sachent. Et c'est là où justement l'accès au droit à l'expression, c'est de dire quand on s'exprime, quand on parle, et bien effectivement, ça devient public. En tout cas, dans le circuit judiciaire, ça peut pas rester secret et que c'est l'obligation du juge de le faire. Et vous avez des tas d'enfants qui vont vous dire « Bah finalement, je veux plus être entendu. » Alors vous, avocat, vous allez continuer à discuter avec lui, vous allez le raccompagner dans votre salle d'attente et l'autre parent va vous dire « Alors qu'est-ce qui va se passer ?» Vous renvoyez le parent sur son avocat en disant « Moi, je peux rien vous dire, je suis tenu au secret professionnel. » On peut juste éventuellement après écrire aux avocats ou à chaque parent en disant « Écoutez, votre enfant ne veut pas être entendu. » C'est là où parfois il va y avoir un autre droit qui va s'opposer, c'est le droit du parent à utiliser la parole dans l'enfant. C'est dire « Finalement, t'as pas voulu discuter avec cet avocat, mais on va aller en voir un autre. » C'est vrai qu'on a des parents qui refusent aussi l'idée que leur enfant n'ait pas envie d'être entendu. Donc là, est-ce que c'est effectivement un véritable droit d'expression de l'enfant ou un droit du parent d'utiliser la parole de son enfant ? C'est aussi une question qu'on se pose. Toujours est-il que là aussi, ça fait partie des difficultés pratiques à démêler. Et l'intérêt de l'avocat, c'est peut-être aussi de voir si l'enfant a le discernement suffisant, puisque cette notion de discernement... Lorsque vous avez des parents qui vont dire « Mais il a le discernement, je vous l'accompagne, je l'amène dans la salle d'attente, vous allez chercher l'enfant qui est parfois un peu petit quand même. » Et puis d'ailleurs, parfois vous êtes vous-même surpris, il est peut-être petit, mais il a un discours qui paraît intéressant. Souvent d'ailleurs, les enfants ont une approche plus simple des parents de comment résoudre un conflit. Toujours est-il que si vous devez convaincre le juge, vous devez alors qualifier en quoi il a le discernement. Et vous pouvez servir de filtre, c'est vrai que... L'enfant qui connaît son nom, qui connaît son prénom, qui sait où il est né, qui sait où il habite, on peut imaginer qu'il a un discernement déjà suffisant pour s'exprimer. Quand il n'est pas capable d'écrire, quand il n'est pas capable de bien situer, vous allez expliquer aux parents qu'il est effectivement, c'est pas véritablement une expression, c'est pas l'utilisation d'un droit, c'est vraiment là pour le coup un parent qui utilise un moyen détourné d'avoir un moyen de preuve. Parce que c'est un petit peu ça aussi le risque. Donc tout ça pour dire que sous couvert du droit à l'expression, alors on borde, on vérifie, on veut pas mettre l'enfant en difficulté, le juge va trier si c'est l'intérêt ou non de l'entendre. Et puis on va avoir une difficulté lorsque les parents sont d'accord sur une organisation par exemple familiale de la séparation et que l'enfant dit « mais je veux quand même être entendu ». Là le juge va vous dire non. Les parents sont d'accord et pourtant c'est bien droit de l'enfant à s'exprimer. Mais à ce moment-là, on est dans un système aussi où, j'allais dire, la parole de l'enfant... où ce droit à l'expression n'est pas un droit totalement libre, puisqu'à ce moment-là, le juge va dire non, c'est pas la peine, parce que moi, j'ai la solution à mon problème juridique, et qui est toute simple, parce que les parents sont mis d'accord. Donc là-dessus, le juge va pas vouloir procéder aux auditions. Alors, il est vrai aussi que sur les autres auditions, les juges sont un peu réticents, parce que c'est aussi une charge de travail supplémentaire, puisque l'enfant peut pas être entendu en même temps que les parents, ça fait une deuxième audience. Si les parents se sont déjà exprimés que l'enfant a fait valoir sa parole et qu'elle a été effectivement communiquée, ben ils ont le droit aussi de demander une réouverture éventuellement du débat pour se repositionner à nouveau. Et c'est là où effectivement, souvent, on peut craindre que le débat, cette fois-ci, porte sur la parole de l'enfant. On veut rediscuter parce qu'il a dit ça. Donc c'est là où effectivement ce droit d'audition, ce droit d'expression de l'enfant va tout de suite se heurter avec le droit aussi des parents de répliquer à cela. Donc sous couvert d'un droit, on met l'enfant souvent en grande difficulté, ce qui peut aussi expliquer la résistance des juges. Et là, l'enfant n'est pas parti à la procédure, ça c'est aussi un des grands rappels de l'article, en disant c'est un droit d'expression, c'est pas un droit d'être parti au procès, parce que à ce moment-là, être parti au procès, ce serait le risque d'être condamné. Celui qui succombe, ben, il est susceptible d'être condamné. Et on ne voudrait pas quand même, me semble-t-il, que les enfants soient condamnés à verser éventuellement des indemnités à leurs parents. Ça poserait peut-être des difficultés après matérielles, sauf s'ils ont un patrimoine important, mais ça c'est une autre question. Donc là-dessus, sur cette effectivité du droit, alors c'est un droit à s'exprimer avec le risque qui va avec ce droit d'expression. On a vu que c'était un droit qui pouvait être confisqué par l'institution judiciaire parce qu'elle n'a pas envie de l'entendre, puisque ça n'apportera rien à la solution du litige. Il y a d'autres domaines où nous, avocats, on va intervenir aussi aux côtés des enfants, c'est en matière d'assistance éducative. C'est notre enfant qui est peut-être dans un milieu carencé, alors qui a peut-être été même placé à l'extérieur de son milieu familial, et qui, là, pour le coup, notre code civil dit qu'il est parti à la procédure. Parce que là, on n'a pas d'adversaire. L'adversaire, c'est éventuellement l'institution, c'est l'État, qui décide effectivement qu'il faut un regard au-dessus pour protéger cet enfant qui est censé être en danger. Là, autant les juges aux affaires familiaux qui sont, dans le cas du conflit familial, ont du mal à entendre les enfants, là, chez le juge des enfants, on les entend très tôt, très vite. Alors, parfois devant les parents, parfois sans les parents. Enfin, on a parfois aussi des positionnements curieux. C'est-à-dire que l'enfant entend beaucoup de choses sur la vie de ses parents. Et il est parti à la procédure, puisque c'est le premier concerné, c'est le juge des enfants. Donc, par définition, si c'est le juge des enfants, la première partie concernée, c'est d'ailleurs l'enfant. Et là, dans le cadre des auditions, on va avoir effectivement un enfant qui va s'exprimer, un juge qui va recueillir sa parole, qui va la noter aussi par écrit, qui va la consigner. Et avec une grande difficulté parfois, aux professionnels qui protègent l'enfant, si c'est un enfant placé par exemple, on a une institution qui va dire, nous on demande le maintien de ce placement, parce que c'est dans son intérêt qu'on l'a placé, il est en danger chez ses parents. Et puis si cet enfant a rencontré un avocat, il peut vouloir lui dire que lui, au contraire, il veut pas de ce placement. D'abord parce que ça laissera entendre que ses parents seraient pas de bons parents, en tout cas, c'est comme ça qu'il vit les choses et qu'il ne veut pas que ce soit dit. Donc, il va dire à son avocat, mais je veux rentrer chez moi. Donc, vous allez avoir à ce moment-là un avocat qui va reprendre le droit d'expression de l'enfant. Il est parti en plus à la procédure, il peut s'exprimer. Et cet enfant va dire qu'il veut rentrer chez lui. Donc, vous, en tant qu'avocat, vous faites quoi? Si vous avez la possibilité de le recevoir en rendez-vous avant, c'est-à-dire que si l'institution à laquelle il est confié accepte effectivement de vous l'amener, parce que là aussi on a des droits, mais parfois, comment le mineur va-t-il avoir accès à un conseil pour valablement voir s'il exerce, d'abord s'il a des droits ou pas, et après s'il les exerce ou non. Admettons que vous ayez pu rencontrer votre client. En tant qu'avocat, dans votre devoir de conseil, là aussi vous allez lui expliquer d'abord pourquoi il est placé, est-ce qu'il sait pourquoi. Vous avez, en fonction de son âge, lui expliquer avec des mots adaptés. J'ai toujours tendance à penser qu'à ce moment-là, l'avocat, c'est une espèce de traducteur, parce que d'abord, les termes juridiques ne sont pas toujours faciles à saisir. Parfois, les enfants ont une vision aussi déformée par l'un ou l'autre des parents. Donc d'abord, vous allez expliquer, c'est dans votre devoir de conseil. Puis vous allez lui demander ce qu'il en pense, et il peut vous dire à ce moment-là, mais moi, je veux rentrer chez moi. Quand vous êtes dans le bureau du juge, ben, vous allez reprendre ce qu'a dit l'enfant. Ça ne veut pas dire que vous pensez qu'il faut qu'il rentre chez lui. Ça, vous allez vous dire, vous, ça sera le rôle du juge, justement, dans ce pouvoir de vérifier ce qui est dans l'intérêt de l'enfant. Et vous, vous êtes juste là pour dire ce que l'enfant veut. Eh bien, je peux vous garantir que très souvent, vous avez des professionnels qui vont dire, mais l'avocat n'a pas compris, pourquoi il a dit ça? Il fallait pas dire ça, parce qu'il ne faut pas qu'il retourne chez ses parents. Et donc, on a toujours ce problème de la parole discordante. Lorsque l'enfant dit quelque chose qu'on ne veut pas entendre, qu'est-ce qu'on fait de cette parole? D'où cette idée que l'expression des droits n'est pas toujours acceptée par les adultes. Et on en revient toujours à cette difficulté. Est-ce que c'est un droit qui est fait pour les adultes, pour aider un enfant à grandir? Et si c'est un droit de l'enfant, pourquoi on ne va pas jusqu'au bout de cette logique? Pourquoi on ne le laisse pas s'exprimer avec cette parole discordante? Alors, il y a des professionnels qui le comprennent, il y en a encore beaucoup qui ne le comprennent pas. D'où cette idée difficile, effectivement, entre les droits tels qu'ils sont fixés et les droits tels qu'on peut... Les vivre ou les organiser au quotidien. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais présenter d'une manière un peu générale sur cette notion de droit. Est-ce que c'est un droit propre à l'enfant ou est-ce que l'enfant reste quand même un objet qu'on veut certes protéger et sous couvert de texte, on est parfois dans une forme d'ambivalence qui peut être difficile à cerner. Oui, pour l'enregistrement.
Alors, pour préparer mon intervention, j'ai relu la Convention internationale des droits de l'enfant, à laquelle Marie-Pierre a fait allusion tout à l'heure. Donc, c'est un texte très intéressant. On l'a salué comme un grand événement à l'époque. De nombreux observateurs ont considéré qu'enfin, on prenait en compte la dimension de l'enfant comme personne humaine à part entière. Comme si, avant ce texte, l'enfant n'était pas véritablement reconnu comme une personne. Certains même sont allés jusqu'à dire qu'enfin l'enfant était considéré comme un citoyen, en ce qui pose des questions que je pourrais examiner tout à l'heure. On peut en noter tout de suite qu'il n'est pas évident de considérer l'enfant comme une personne humaine, ça a été dit tout à l'heure, déjà par Jean-Noël. On a bien des raisons de considérer l'enfant comme un être inférieur. Dès lors que l'enfant est appelé à grandir en humanité, eh bien ça signifie qu'il n'est pas pleinement homme. Et donc, non seulement il a des incapacités juridiques, mais des incapacités dans le domaine intellectuel, dans le domaine affectif. Et donc, il est effectivement moins que... Alors, le mot mineur, on l'a suggéré à un sens un petit peu péjoratif, mais techniquement, donc, comme l'a dit Marie-Pierre, ça veut dire moins de, alors moins de 18 ans, mineur de 18 ans. Les gens ne comprennent pas très bien ce que ça veut dire quelquefois. On dit qu'il faut un mineur de 15 ans, moins de 15 ans. Bon, donc, il est évident que l'enfant est moins humain que l'adulte. Il faut être clair par rapport à cela. Bon. Alors, ce qui est admirable, on y reviendra, c'est qu'on puisse le considérer comme une personne humaine à part entière. Et je vous dirais, ça n'a rien d'évident. Il faut trouver cela tout à fait admirable. En même temps, le texte fait apparaître que l'enfant, du fait de sa faiblesse, de sa vulnérabilité, du fait de son manque de maturité physique, intellectuelle, du fait qu'il est moins homme, a besoin de protection spéciale, a besoin de soins spéciaux. Et c'est très intéressant de voir ici que la Convention internationale prend en compte la double dimension de la personne en l'enfant. Et pour bien saisir ce que l'on doit à une personne, il faut distinguer ce que j'appellerais une dimension abstraite et une dimension concrète. La dimension abstraite, c'est ce qui fait qu'il y a égalité entre tous les humains, quel que soit leur statut, quel que soit leur état, quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe, bien entendu. Et donc, la dimension abstraite, ici on en parle, on fait abstraction des états, situations variées qu'on est bien obligé de reconnaître. Mais on n'a pas vraiment le souci d'une personne si on ne prend pas en compte cette dimension concrète et notamment des besoins concrets. Bon, c'est ainsi, par exemple, que dans les droits de l'homme, on a été amené à distinguer des droits spéciaux pour des catégories de personnes en difficulté, comme les personnes malades, les personnes handicapées, et puis il y a bien d'autres personnes qui peuvent être en difficulté de façon plus ou moins conjoncturelle. Et de ce point de vue-là, on voit que la CIDE suit, CIDE, Convention internationale pour les droits de l'enfant, donc la CIDE suit ici une logique très intéressante quand on considère les droits de l'homme en général, qui balance entre le souci de l'humanité dans sa dimension abstraite et ce qu'on voit surtout dans ce qu'on appelle la première génération des droits de l'homme, donc les droits de l'homme des déclarations de la fin du XVIIIe siècle, et puis les déclarations qui viennent ensuite et qui prennent en compte les droits économiques et sociaux, c'est-à-dire des besoins concrets, alors des besoins concrets qui sont propres à tous les humains, mais des besoins concrets aussi qui peuvent être propres à certaines façons d'être humain, notamment, comme j'ai suggéré, pour les personnes malades et personnes handicapées, souvent pour les femmes aussi, il faut le dire, pour les enfants. Et peut-être qu'aujourd'hui, on peut parler des droits des pères dans la famille, qui peuvent se trouver en difficulté réelle dans leur capacité d'entretenir des liens durables avec leurs enfants. Et donc, on voit bien, effectivement, que lorsqu'on éprouve des difficultés particulières, on peut réclamer des droits spéciaux. Voilà. Alors, c'est aussi un texte international, et donc qui a la prétention de s'imposer aux États. Un texte qui se présente comme ayant une vocation universelle. Et donc, il est heureux de voir qu'au-delà des différentes instances qui habituellement ont le souci de l'enfant, ont le souci de la protection de l'enfant, au-delà de la famille, au-delà de l'État, une instance internationale prend en compte l'intérêt de l'enfant avec des principes qui sont censés être appliqué par l'ensemble des États. Bon, tout en présentant des directives du point de vue international, c'est un texte qui montre une certaine prudence dans la mesure où les médiations éducatives, notamment, sont souvent évoquées, et précisément celles que je viens de citer. La famille, Alors finalement, la famille est très souvent présente dans le CIDE, dans le préambule, les articles 18, 27. Et donc, on pourrait dire que le texte identifie comme lieu dont l'enfant puisse attendre le maximum de protection, la famille. C'est très intéressant parce qu'en somme, le texte reconnaît ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. On reconnaît aussi les traditions et coutumes. Traditions et coutumes qui s'élaborent au cours des siècles. On ne sait pas toujours d'où elles viennent, mais elles peuvent être porteuses d'une certaine sagesse, d'une certaine prudence. Et puis, bien sûr, au-dessus, on va trouver les États-partis qui ont chacun leur législation, leurs droits propres. Bon. Alors, troisième élément intéressant, on identifie les besoins de l'enfant, dont je disais que autant de façons d'être humain, autant de besoins spécifiques. Donc, des besoins qui doivent ensuite être garantis par des droits. Donc, Jean-Noël disait tout à l'heure que, en de nombreuses civilisations, l'enfant n'a pas de statut, n'a pas d'état civil. Eh bien, le texte va insister sur le droit pour l'enfant, le besoin pour l'enfant d'avoir un état civil, d'avoir une nationalité, d'avoir un nom. C'est vrai qu'un enfant qui est sans nom est exposé à toutes les violences. Personne n'est là pour s'inquiéter de son sort. Voilà. Alors, d'autres éléments concrets comme le maintien de relations avec les parents, notamment dans le cas de séparation, mais plus intéressant encore, la protection contre différentes formes de violences. Alors, des violences dont les enfants peuvent être victimes, comme les adultes d'ailleurs, quand ils sont réfugiés, paragraphe article 22, quand ils sont handicapés, article 23, quand ils sont malades, en général, article 24. Et puis, l'article 24 aussi, l'abolition de pratiques traditionnelles, alors la tradition est interrogée et critiquée, des pratiques traditionnelles qui pourraient être préjudiciables à la santé de l'enfant. On peut, en lisant entre les lignes, évoquer par exemple, je ne sais pas, l'excision des petites filles dans un certain nombre de pays qui semble ici être l'objet d'une condamnation. Bon, on évoque le besoin d'éducation. On évoque la protection par rapport au travail, sans donner ici d'âge précis. On se fie un petit peu aux coutumes, aux traditions locales. Par contre, le travail, la mise en garde contre l'exploitation sexuelle, la prostitution, article 34. La réglementation par rapport à l'enrôlement des enfants dans les armées. Là, le texte donne un âge, 15 ans. Donc, au-delà de 15 ans, on peut éventuellement accepter. En deçà, non. Voilà. Et puis, j'ai dit aussi qu'on ne peut pas appliquer la peine capitale aux mineurs, aux enfants, ni leur infliger la prison à vie. Voilà. Donc, ce sont autant d'éléments qui rendent cette convention très sympathique. Personnellement, j'avais peut-être eu, il y a une dizaine d'années, tendance à être un petit peu sévère envers elle. Et après l'avoir relu récemment, je trouve qu'elle donne des indications bien intéressantes et bien précieuses. Ce sont des indications, des principes, des éléments qui doivent inspirer les États. Et donc on peut dire que le texte a une allure morale, incontestablement. Alors le problème qui va se poser ensuite, c'est lorsqu'on veut passer de l'allure morale du texte, qui doit être un texte inspirateur, à la prétention de faire découler directement de ce texte des éléments de droit, ou même des éléments politiques. Voilà. Et c'est là qu'on peut, du point de vue d'une réflexion sur la philosophie du droit, faire des réserves par rapport à ce texte, ou par rapport à des interprétations, à dire du texte qui seraient peut-être excessives. Bon. Je pense que la question principale qui se pose, c'est celle de l'articulation entre deux concepts. Les concepts ne sont pas faciles à identifier parce que phonétiquement, c'est exactement la même chose, c'est le mot droit. Mais tantôt il est au pluriel, tantôt il est au singulier. Et donc là, il s'agit bien des droits au pluriel, donc droits subjectifs, qui marquent les droits de l'homme en général. Et donc la question qui se pose est la suivante, est-ce que le droit, c'est-à-dire la législation, et aussi la pratique judiciaire, on peut dire que le droit se divise en ces deux branches, est-ce que le droit comme législation ou pratique judiciaire doit être simplement la mise en forme de droit. Est-ce que le législateur doit prendre en compte tour à tour les droits des uns et des autres pour prévoir qu'ils soient garantis? Bon. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que quand on... Si on veut organiser la législation depuis les droits, on se trouve devant une difficulté considérable parce que les titulaires de droits sont extrêmement nombreux selon les différents besoins spécifiques dont ils peuvent être porteurs. Donc les enfants ont des besoins propres, bien sûr, mais pourquoi ne pas dire aussi que les parents ont des besoins propres, spécialement les mères, les pères. Bon, si on parle de droits de l'enfant, on va trouver alors un droit principe, comme par exemple le droit à l'enfant, que certains voudraient faire garantir par le législateur. Bon, la CIDE évoque le droit de l'enfant inhérent à la vie. Bon, c'est l'article 6. Et on sait que la France, précisément, a fait une réserve à la fin parce que ce principe met en cause la législation française sur l'avortement. Bon, vous voyez qu'il y a un droit principe, par exemple, qui est agité aujourd'hui, qu'on appelle le droit à l'avortement. Bon, les exemples sont nombreux où l'on voit que sont en conflit à la fois les droits principes, le droit A, si vous voulez, et les droits dont sont titulaires différentes catégories de personnes. Donc, il n'est pas du tout évident qu'on puisse véritablement envisager la législation selon les droits. On pourrait en dire de même de la pratique judiciaire. Est-ce que le juge, alors évidemment, on dira que dans un procès, il y a différents titulaires de droits qui s'opposent, mais est-ce que le juge doit forcément prendre en compte tour à tour les droits des uns et des autres? Et on se demande bien, finalement, qu'est-ce qui pourra pencher en la faveur des uns et des autres. Alors, par rapport à cette conception subjectiviste du droit, on pourrait évoquer d'autres conceptions ou d'autres philosophies qui ont notamment leur origine dans l'Antiquité, dans la philosophie d'Aristote notamment, et puis qu'on retrouve dans le droit romain, à savoir, pour le législateur, viser un équilibre pour une bonne organisation de la société. Et on dira de ce point de vue-là que le bien des personnes passera par la médiation d'un ordre social satisfaisant. Et il n'est pas difficile de faire voir que si une société se présente comme désordonnée, si a fortiori dans cette société règne l'anarchie, l'absence d'instances capables de faire régner l'ordre, police par exemple, eh bien les personnes sont menacées, et spécialement les plus faibles. Et bien entendu, parmi les plus faibles, les enfants eux-mêmes. Donc, on pourrait dire que le premier besoin des personnes en situation de faiblesse est de pouvoir disposer d'un véritable ordre public. Et donc, ça suppose qu'on puisse repenser l'art de la législation, mais aussi un autre art que celui de la législation, qui est l'art politique. Alors, ce sont deux arts qui peut-être peuvent être distingués, mais aussi liés. Ils concernent l'organisation de la cité. Et... lorsqu'on a le souci des personnes, il faut avoir les moyens, non seulement de prendre en compte leurs soucis particuliers, mais également les moyens d'assurer les conditions de la sécurité pour tous. Et donc, c'est là qu'on va rencontrer ce qui est le moyen même du politique, selon certains auteurs, comme par exemple Julien Freund, qui fait même l'essence du politique, à savoir la force. C'est-à-dire que là où un État ne dispose pas de force, eh bien, on dira que les plus grands malheurs peuvent apparaître pour toutes les personnes qui vivent dans cet état. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter d'agiter les droits. Ce serait, on pourrait dire, pure incantation. Parce que si les droits doivent correspondre à des besoins réels, il faut avoir les moyens véritables de satisfaire ces besoins. Et il faut aussi une volonté. Et pas simplement une bonne volonté, parce qu'on pourrait dire que pour le bien des enfants, il suffit, il n'y a qu'à appliquer les droits de l'enfant. Ça ne suffit pas. Il faut avoir la volonté de prendre les moyens, et notamment pour assurer des médiations satisfaisantes. Alors, toutes les médiations qui touchent à la vie familiale, qui touchent à l'État, et qui supposent ici donc l'intervention du politique. Alors, toujours dans le sillage de cette observation, on pourrait considérer que le danger avec les droits de l'enfant, ce serait qu'on veuille stipuler, à terme, dans le détail, tout ce qu'il faut faire pour le bien de l'enfant. De telle sorte que chaque fois que de nouveaux problèmes se posent, on va dire, on invente un nouveau droit ou on formule un nouveau droit. C'est le problème qui se pose en général par rapport aux droits de l'homme, comme si on pouvait régler les problèmes politiques, juridiques, sociaux avec l'édiction, on peut dire, de nouveaux droits. Bon, alors ça pose des problèmes en particulier, comme je l'ai dit, parce que les droits vont devenir pléthoriques et entrer en conflit, et finalement on ne réglera rien du tout. Bon, alors avec cette volonté de stipuler dans le détail ce qu'il faut faire, on a, ce qui concerne les droits de l'homme en général, ce que le doyen Carbonnier appelle un nouveau catéchisme. Alors l'expression est peut-être un peu forte. On avait voulu au XVIIIe siècle se détacher de ce que les religions offraient de rigoureux en matière morale, en matière juridique, en matière politique peut-être, au nom de la liberté. Donc la liberté s'exprime, on l'a dit, dans la première génération des droits de l'homme, liberté politique, liberté du citoyen. Et avec les deuxième ou troisième générations, on voit que pour le bien de l'homme, ce qui est très sympathique bien entendu, on veut dire dans le détail ce qu'il faut faire pour le bien de l'homme et notamment pour ce qui nous concerne des enfants. Alors, de ce point de vue-là, on pourrait dire que la multiplication des droits, et peut-être spécialement des droits des enfants, peut apparaître comme symptomatique d'une société qui deviendrait de moins en moins humaine, ou pire, qui serait de plus en plus inhumaine. On pourrait dire que, pour les enfants en particulier, tout se passait comme si les enfants ne pouvaient plus véritablement compter sur des instances constitutif d'un monde humain, donc que j'évoquais déjà, la famille, d'autres instances, d'autres groupements, les religions aussi bien sûr, l'État lui-même. Donc c'est comme si on ne pouvait plus compter sur, on va dire, au plus près de la vie, sur des instances capables d'assurer, on va dire, ordinairement, le bien des personnes. Alors, on peut s'inquiéter, par exemple, de la mise en place de personnalités en France. Moi, je suis toujours gêné quand j'entends parler du défenseur des enfants ou du médiateur. Qui est ce? Alors, on sait qu'il y a derrière une personnalité qu'on peut nommer. Mais alors, si on dit le défenseur des enfants ou la défenseuse, comme on voudra, si c'est une dame, ben, ça voudrait dire qu'il n'y a personne d'autre pour défendre les enfants, pas même les avocats, d'ailleurs. C'est assez étonnant, comme si, finalement, on devait toujours régler les problèmes au plus haut, alors au niveau de l'État en France, et si possible même au niveau international. Donc c'est très inquiétant de voir que on voudrait tout régler selon des droits. Voilà. Alors, toujours dans les remarques critiques, on pourrait se demander s'il n'y a pas confusion entre différents plans d'intelligibilité. On a tendance souvent à considérer que les droits de l'enfant disent de façon essentielle, principale, définitive, ce qu'il faut faire pour le bien de l'enfant. Mais vous notez ici que, du point de vue conceptuel, on a quand même deux expressions différentes, droit de l'enfant et bien de l'enfant. Et donc, s'il y a deux concepts différents, on peut penser que ce n'est pas la même chose. Et malheureusement, souvent, lorsque on utilise les droits en général, droits de l'homme en général, droits de l'enfant en particulier, tout se passe comme si l'expression droit de l'homme, droit de l'enfant, était synonyme de, par exemple, dignité de l'enfant ou bien de l'enfant. Alors, il s'agit ici de penser une hiérarchie entre des niveaux de valeurs qui se tiennent et s'articulent les uns les autres. On a inventé donc les droits de l'enfant dans le sillage des droits de l'homme, lesquels ont été inventés depuis peut-être 250 ans. Est-ce à dire qu'avant les droits de l'enfant, avant les droits de l'homme, on n'avait pas le souci de l'homme, pas le souci de l'enfant? On pourrait le croire quelquefois. Alors, il faut y considérer que les droits de l'enfant, comme les droits de l'homme en général, sont des médiations. Des médiations par rapport à ce qui se tient au-dessus. Alors, qu'est-ce qui peut se tenir au-delà du droit de l'enfant? Ben, on l'évoquait à plusieurs reprises, les besoins de l'enfant. Ou encore son intérêt supérieur ou pas, peu importe. Bon. Et si on veut construire une sorte de pyramide, voilà, on va trouver un troisième niveau éventuellement. Alors, le bien de l'enfant, ou encore la dignité de l'enfant. Donc, ça veut dire que si on prend comme principe le bien de l'enfant, la dignité de l'enfant, il est parfaitement possible que, très souvent, on parvienne au bien, la dignité par les droits, mais pas nécessairement. Ça veut dire qu'éventuellement, avec les droits, on peut manquer ce qui se présente comme principe. Et donc, ça veut dire qu'il faut chercher éventuellement d'autres médiations possibles, comme celles que j'évoquais tout à l'heure, des médiations modestes, comme celles qui tiennent à l'ordre public, qui tiennent à l'existence d'un État, qui puisse assurer la paix, etc. Bon. Alors, dernière remarque critique, qui porte sur quelques articles qui ont été l'objet d'une très forte contestation en 1989 et de débats très vifs entre des personnalités qui s'expriment encore dans les médias, comme Alain Finkielkraut, par exemple, contre Jean-Pierre Rosenzweig, magistrat encore président du tribunal de Créteil, hein, c'est là, donc ils sont toujours en place, l'un comme essayiste, l'autre comme magistrat. Bon, et donc le débat portait sur les articles 13 à 15, alors Marie-Pierre y a fait un petit peu allusion, qui reconnaît pour les enfants les droits du citoyen. Alors certes, avec des réserves, des restrictions, mais la chose est dite, liberté de penser, liberté religieuse, liberté d'expression, liberté d'association. Donc ce sont en gros les libertés fondamentales, ce qu'on appelle les droits politiques, les droits du citoyen, ceux qui caractérisent la première génération des droits de l'homme. Alors, on peut s'interroger effectivement sur l'opportunité de reconnaître aux enfants les droits du citoyen, parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, plusieurs reprises, l'enfant doit grandir en humanité. Il doit grandir dans le sens du discernement, dans la capacité de distinguer ce qui est bon, moins bon pour lui. Et donc, il a besoin d'être éduqué. Et cette éducation est exercée par ce qu'on appelle une autorité. Et donc, cette autorité se présente comme liée à une exigence, à des devoirs pour les adultes. Et le devoir, l'exigence de prendre des moyens qui ne sont pas toujours négociables et qui, d'une certaine façon, doivent passer par une discipline. Donc, il y a une contradiction, une petite contradiction, dans la mesure où, avec la CIDE, on a voulu créer des droits spéciaux pour les enfants compte tenu de leur vulnérabilité, de leur faiblesse intellectuelle, c'est dit. Et voilà qu'on leur accorderait des libertés des libertés qu'ils ne peuvent pas exercer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'exercer de cette liberté. Et comme l'avait dit à l'époque Alain Finkielkraut, c'est mettre grandement en danger les enfants par rapport à des instances diverses qui pourraient avoir à profiter de cette proclamation de la liberté des enfants. Alors, il en évoquait trois types, on va dire, d'instances qui peut profiter de cette proclamation de la liberté des enfants qui, pour autant, ne sont pas capables de discernement. Donc, il évoquait les partis totalitaires qui peuvent, finalement, considérer que l'enfant peut se détacher de sa famille et adhérer directement au parti. Il évoquait les sectes aussi, qui peuvent se frotter les mains, qu'on proclame la liberté religieuse des enfants, hein. Et puis enfin, les pédophiles, qui peuvent se flatter aussi de ce que l'on dit, ce que les enfants savent bien ce qu'il faut, d'autant qu'on trouve ensuite l'article 16, je crois, sur la liberté, sur la vie privée, et qui ne va pas s'en poser des problèmes, vous voyez, par rapport à l'autorité même éducative, notamment l'autorité des parents. Bon, voilà donc les principales remarques critiques qu'on peut faire par rapport au texte. Je voulais terminer en revenant un petit peu sur le statut de l'enfant, dont on a dit qu'il est inférieur à l'homme adulte, on ne peut pas le nier. Donc je voudrais revenir sur cette idée selon laquelle il faut tenir vis-à-vis de l'enfant un discours qui prend en compte deux points de vue et qui peuvent être tenus tous les deux sans contradiction. Le premier point de vue, c'est celui de l'inégalité entre l'enfant et l'adulte. Bon, inégalité, je dis de fait. Inégalité de fait. Donc, qui vient du fait que l'enfant, effectivement, n'est pas un homme accompli. Voilà. Donc, il n'y a rien d'irrévérencieux à dire que l'enfant est inférieur à l'adulte. De facto, de fait. L'inégalité de fait peut engendrer, du côté de l'adulte, soit des abus, soit des responsabilités. Et donc, un certain nombre de violences dont les enfants sont victimes proviennent de l'abus que l'adulte fait de sa supériorité. Donc, violence physique, violence affective, violence morale, éventuellement dans la famille elle-même, hélas, avec des violences sexuelles. Bon. Mais l'adulte peut, de cette inégalité, en faire la voie d'une exigence, d'une responsabilité. C'est parce qu'il est supérieur à l'enfant, on va dire dans l'accomplissement de l'humanité, qu'il a le devoir de tout faire pour que l'enfant grandisse, et notamment le devoir d'exercer une autorité. Et dans l'exercice de l'autorité, on peut dire qu'il y a une inégalité que j'appellerais statutaire. Donc au-delà de l'inégalité factuelle, une inégalité statutaire, il faut accepter que dans la famille, entre les parents et les enfants, dans l'école, entre le maître et les élèves, il y a une égalité de statut et qu'il puisse être marqué par l'institution. Que chacun ait bien sa place. Bon. Et par ailleurs, alors, nous affirmons une égalité, alors, on peut l'appeler de droit, je pourrais l'appeler une égalité de type éthique, et je ne craindrais pas de dire même métaphysique, au sens où cette égalité, elle s'impose au-delà de l'inégalité factuelle. Et pour nous autres humanistes, cette égalité éthico-métaphysique va de soi. À vrai dire, elle n'est jamais évidente, parce qu'il est tellement facile, effectivement, de s'emparer de l'inégalité factuelle et d'en faire un principe éthique. Et d'affirmer que l'enfant est moins homme. Alors, d'un côté, il est moins homme par ses capacités, de l'autre, il est pleinement homme en tant que personne humaine. Donc ça veut dire que nous reconnaissons à l'enfant, dès son plus jeune âge, la pleine dimension d'humanité, on va dire, du point de vue ontologique. Une humanité qui ne change pas, qui ne connaît pas de plus ou de moins. Et donc on dira que dans la responsabilité éducative, il faut tenir les deux. Si on abandonne l'un des deux, on manque l'objectif. Si on ne reconnaît pas la dignité de l'enfant, on ne peut pas l'éduquer véritablement. Si on ne reconnaît pas cette égalité entre l'adulte et l'enfant, on ne peut pas éduquer. Et on ne peut pas non plus éduquer si l'on affirme l'inégalité comme telle. Il faut tenir les deux ensemble. Voilà. Donc, on dira que les droits de l'enfant, s'ils doivent se développer, doivent bien prendre en compte ces deux dimensions, tant dans l'éducation que dans la vie familiale, que dans la vie sociale.